Chapitre 6. À peine avait-il remarqué le départ de Vladimir, que, retombant dans son ennui et satisfait de sa vengeance, Onieguine se mit à rêver, assis près d'Olga. Olga, de son côté, répondait en bâillant au bâillement d'Onieguine, cherchant Lenski des yeux, et l'éternel cotillon l'excédait comme un songe pénible. Il s'achève enfin, on soupe, ensuite on étale par terre des matelas pour les invités, depuis le perron jusqu'à la chambre des servantes. Chacun sent le besoin d'un sommeil paisible. Onieguine seul retourne chez lui. Tout dort, le lourd Poustiakov ronfle dans le salon avec sa lourde moitié. Gvozdin, Bouyanov, Pietouchkov et Flanov, qui se sentaient indisposés, se sont établis sur des chaises dans la salle à manger. Et M. Triquet, en gilet de flanelle et bonnet de coton, sur le plancher. Pressés dans les chambres de Tatiana et d'Olga, les demoiselles aussi sont toutes envahies par le sommeil. Seule, appuyée contre la fenêtre, au pâle rayon de Diane, la triste Tatiana regarde, sans dormir, les champs assombris. L'apparition inattendue d'Onieguine, l'éclair de tendresse fugitive qu'ont jeté ses yeux, puis sa bizarre conduite avec Olga, ont pénétré jusqu'au fond de son âme. Une angoisse de jalousie la déchire, et cependant elle sent comme une main glacée qui lui serre le cœur. Elle voit comme un abîme qui s'ouvre devant elle, au fond duquel des flots sombres la menacent en mugissant. « Je périrai, » se dit Tatiana, « mais venant de lui, la mort même me sera douce. Je ne murmure point qu'elle boit bon. Il ne peut pas me donner le bonheur. » En avant mon histoire. Un nouveau personnage nous appelle. À 5 verstes du village de Lenski, vivait et vit encore à présent dans une retraite de philosophe, un certain Zaretski, jadis mauvais sujet, chef d'une bande de grecs et de tapageurs, tribun de taverne, devenu maintenant un simple et bon père de famille, célibataire, ami sûr, seigneur débonnaire et même honnête homme. Ainsi se corrigeait sa mode notre siècle. Naguère, la voix flatteuse du monde, avait vanté sa fougueuse bravoure. Il est vrai de dire qu'à 15 ans, il logeait une balle de pistolet dans un as, et qu'une fois, entre autres, il s'était effectivement distingué dans une bataille où, pris d'une ivresse manifeste et s'étant hardiment jeté de son cheval dans la boue, il avait été ramassé par les Français comme un otage précieux. Nouveau Régulus, idolâtre du point d'honneur, il n'eut pas mieux demandé que de reprendre ses fers pour aller chez Véry chaque matin vider 3 bouteilles à crédit. Naguère, il avait fort bien manié la raillerie. Il excellait à berner un sot ou à mystifier un homme d'esprit, soit ouvertement, soit en sournois, suivant le sujet et l'occasion. Il est vrai que maintes de ses plaisanteries ne se passaient pas sans qu'il y gagnât une leçon ou qu'il lui arrivât de donner lui-même dans le panneau comme un imbécile. Pourtant, il savait toujours soutenir avec gaieté la discussion, répondre avec ou sans esprit, mais répondre. Se taire parfois avec calcul, d'autres fois par calcul, prendre la mouche, exciter l'un contre l'autre de jeunes gens et les amener sur le terrain, ou bien les engager à se réconcilier, pour ensuite déjeuner à 3, puis les diffamer en secret par une malice aussi perfide qu'insouciante. C'est de alia tempora. Mais le goût des farces, aussi bien que l'amour, autre folie, passe avec la bouillante jeunesse. Comme je viens de le dire, mon Zaretski s'était mis enfin à l'abri des orages, sous l'ombre des acacias et des merisiers, vit en véritable sage, plante des choux comme Horace, élève des canards et des oies, et enseigne l'alphabet aux petits-enfants. Il avait de l'esprit et, sans accorder de l'estime à son caractère, Onieguine aimait la tournure de ses jugements et sa conversation aussi dénuée de prétention que pleine de bon sens. Il le voyait avec plaisir. Aussi ne fut-il nullement étonné de le voir paraître un beau matin dans sa chambre. Après l'échange des seins, Zaletsky interrompit subitement l'entretien commencé. Déjà, le soleil roule dans les cieux et les brins de neige que le vent fait tourbillonner brillent à ses rayons. Onegin n'a pas encore quitté sa couche. Il se réveille enfin, écarte paresseusement ses rideaux et voit qu'il aurait eu depuis longtemps quitté la maison. Il sonne précipitamment. Son valet de chambre français du nom de Guillot lui présente sa robe de chambre et ses pantoufles. Mais Onegin se hâte de s'habiller, donne l'ordre à son domestique de se préparer à l'accompagner et de prendre la boîte au pistolet. Un traîneau de course s'avance. Il part au galop, il arrive au moulin. Il commande à son domestique d'apporter les canons meurtriers de Lepage et au cocher de s'éloigner jusqu'à deux chênes isolés dans la campagne. Appuyé sur la digue, Lenski se consumait d'impatience, tandis que, mécanicien de village, Zaretsky critiquait le jeu des meules du moulin. Onegin s'avance en s'excusant. « Mais, répond Zaletsky avec stupéfaction, où donc est votre témoin ?» Classique et pédant en matière de duel, il aimait la méthode par conviction, et s'il permettait bien d'étendre un homme par terre, ce ne devait pas être négligemment, mais selon les règles sévères de l'art et d'après toutes les traditions admises, ce que nous devons louer en lui. « Mon témoin ?» répondit Onegin. Bon, le voici, mon ami, Monsieur Guillot. Je le vois d'une objection à ce qu'il soit accepté. C'est, il est vrai, un homme inconnu, mais c'est assurément un galant homme, lui. » Zaretsky se mordit les lèvres. « Eh bien, commençons-nous ?» demanda Onegin à Lenski. « Commençons, pourquoi pas ?» répliqua celui-ci. Il se place derrière le moulin, et tandis que, dans l'éloignement, Zaletsky et le galant homme sont gravement à se concerter, les adversaires se tiennent vis-à-vis l'un de l'autre, les yeux baissés. Les adversaires. Y a-t-il longtemps que la soif du sang les excite l'un contre l'autre? Y a-t-il longtemps qu'ils partageaient amicalement les heures de loisirs, les repas, les actions et jusqu'aux pensées? À cette heure, pareil à des ennemis héréditaires, comme à travers un rêve terrible et inexplicable, ils préparent dans un froid et cruel silence leur perte mutuelle. Et s'ils se mettaient à rire avant que leurs mains ne fussent tachées de sang, s'ils se séparaient cordialement, redevenus bons camarades? Mais non, gens du monde, le faux point d'honneur leur inspire une crainte farouche et les arrête. Le fer poli des pistolets brille au soleil. Le marteau retentit sur la baguette. Les balles s'enfoncent dans les rainures des canons. Les chiens se lèvent en craquant. La poudre tombe en minces filets grisâtres dans le bassinet. La pierre à feu, fortement vissée, se lève une seconde fois. Guillot, tout troublé, s'efface devant un tronc voisin. Les deux adversaires jettent leurs manteaux. Zaretsky mesure avec une parfaite exactitude 32 pas, place au debout Onegin et Lenski et présente à chacun d'eux le pistolet qui lui est destiné. Maintenant, avancez-vous. Avec sang-froid, sans se viser encore, d'un pied lent et ferme, les deux ennemis font 4 pas, 4 degrés vers la mort. Onegin, continuant à s'avancer, lève le premier lentement son pistolet. Ils font encore 5 pas. Hélensky, fermant l'œil gauche, se met à viser aussi. Soudain, Onegin tire. L'heure fatale a sonné. Le poète laisse échapper son arme en silence. Pose doucement sa main sur sa poitrine et tombe. Ce n'est pas la souffrance, c'est la mort qu'exprime son œil déjà voilé. Ainsi, glissant avec lenteur sur le flanc d'une colline et jetant de pâles étincelles sous les rayons du soleil, s'écroule un bloc de neige au printemps. Glacé d'un froid subit, Onegin s'élance vers l'adolescent. Il se penche sur son corps, il l'appelle. En vain. Le poète est mort. Cette jeune vie a trouvé sa fin. L'orage a soufflé, la fleur s'est flétrie dès l'aurore, le feu s'est éteint sur l'autel. Il était étendu, immobile, et étrange était la paisible langueur de son front. La balle avait traversé sa poitrine, et le sang s'échappait en fumant de la blessure. Une minute avant, fermentait dans ce cœur l'enthousiasme, la haine, l'espérance et l'amour. La vie bouillonnait en flots ardents. À présent, comme dans une maison abandonnée, tout y est tranquille et sombre, tout y est muet pour jamais. Les volets sont fermés, les fenêtres mêmes sont blanchies à la chaux. La maîtresse est partie. Où est-elle allée? Nul ne le sait. Il est agréable, par une épigramme insolente, de mettre hors de lui un ennemi pris au dépourvu. Il est agréable de voir comment, penchant avec obstination ses lourdes cornes, il jette un regard de travers dans le miroir qu'on lui présente et craint de s'y reconnaître. Il est encore plus agréable de l'entendre beugler bêtement. C'est moi. Il y a même un certain plaisir à lui préparer une sépulture honorable, en visant avec soin son front pâli à une distance voulue entre gentilshommes. Mais qui trouverait les charmes à le renvoyer définitivement auprès de ses ancêtres? Que dire alors si votre arme a frappé un jeune ami qui vous aurait offensé devant une bouteille par un regard provoquant ou une brusque réponse ou quelque autre misère ou même qui vous aurait appelé au combat dans un élan de dépit? Dites, quel sentiment s'emparera de votre âme quand là, sur la terre, immobile à vos pieds et l'empreinte de la mort sur les traits, il se contracte et se roidit peu à peu? Quand il reste sourd, inerte, à votre appel désespéré, déchiré de remords, sa main pressant convulsivement le pistolet, Onegin regarde Hélensky. « Eh bien quoi, il est tué ?» décida le voisin. « Il est tué !» Foudroyé par cette exclamation terrible, Onegin s'éloigne en frémissant et appelle ses valets. Zaretsky pose soigneusement sur le traîneau le corps déjà glacé. Il va apporter à la maison ce fardeau sinistre. Flairant un cadavre, les chevaux renâclent et se cabrent. Ils blanchissent d'écume leurs morts d'acier et partent comme la flèche. Ô mes amis, vous prenez pitié du poète. Dans la fleur de ses joyeuses espérances, n'ayant pas encore eu le temps de rien achever, et à peine sorti des langes de l'enfance, il est tombé. Où sont les agitations ardentes, les élans généreux, les sentiments et les pensées jeunes, élevés, tendres, hardis? Où sont les désirs infinis de l'amour, et la soif de la science et du travail, et la terreur du mal et de la honte? Et vous, illusion mystérieuse, vous, apparition d'une vie qui n'est point celle de la terre, vous, rêve de la sainte poésie. Il était né peut-être pour le bien du monde, au moins pour la gloire. Sa lyre, soudainement muette, aurait pu plonger dans les siècles un son toujours grandissant. Peut-être, s'il eût monté les degrés de la vie, un haut degré l'attendait. Son nombre de martyrs a peut-être emporté avec elle un secret sacré. Une voix vivifiante a péri pour nous. Et au-delà de la muette limite du tombeau, n'arriveront pas jusqu'à elle l'hymne solennel des siècles et les bénédictions de la postérité. Peut-être aussi qu'une destinée tout ordinaire attendait le poète. Les années de la jeunesse auraient passé, l'ardeur de son âme se serait refroidie. Changé peu à peu et complètement, il aurait quitté les muses et se serait marié. Enfoui dans un village, heureux et trompé, il aurait porté une robe de chambre ouatée. Acceptant la vie telle qu'elle est, il aurait eu la goutte à 40 ans, il aurait bu, mangé, bâillé, engraissé, maigri, et finalement il aurait rendu l'âme dans son lit, entouré d'enfants, de femmes en larmes et de médecins ignorants. Quoi qu'il en fût advenu, ô lecteur, hélas, le jeune amoureux, le poète, le rêveur mélancolique a péri par la main d'un ami. Il est un endroit non loin du village qu'habitait la nourrisson de la muse. Deux pins ont entrelacé leurs racines. Les eaux du ruisseau de la vallée voisine sont venues y former un petit lac. Le laboureur aima reposer sur ses bords, et les moissonneuses viennent plonger dans les ondes froides leurs cruches sonores. Là, sous l'ombre épaisse, on a posé une simple pierre. Quand les pluies printanières commencent à mouiller de leurs gouttes fines la naissante herbe des champs, un berger, assis près de là, et tissant son lapote bigarré, chante « Les pêcheurs du Volga ». Et quelques jeunes citadines qui passent l'été à la campagne, quand elles galopent seules à travers champs, tire brusquement la bride de son cheval devant ce monument et, rejetant le voile de son chapeau, lit d'un regard rapide la circonscription et une larme vient mouiller sa paupière. Puis elle s'éloigne au pas, plongée dans de longues réflexions. Involontairement soucieuse du destin de Lenski, elle se demande ce qu'est devenue Olga. Son cœur a-t-il longtemps saigné? Ou bien le temps des larmes a-t-il passé vite? Et sa sœur, qu'est-elle devenue? Et lui, cet original farouche, ce fuyard des hommes et du monde, cet ennemi à la mode, des beautés à la mode, le meurtrier du jeune poète, où est-il? À ces questions, je donnerai avec le temps une réponse détaillée. Mais à présent, bien que j'aie une certaine sympathie pour mon héros, bien que je doive y revenir, j'ai à m'occuper d'autre chose. Les années me font pencher vers la mâle prose. Les années chassent la rime folâtre. Et moi-même, j'en dois faire l'aveu, je la courtise plus paresseusement. Ma plume n'a plus l'ancienne manie de barbouiller des feuilles voilantes. D'autres idées plus froides, d'autres soucis plus sévères, troublent et occupent mon âme dans le bruit du monde et dans le silence de la solitude. J'ai appris à entendre la voix de nouveaux désirs. J'ai appris à connaître de nouveaux chagrins. Mais je n'ai point d'espérance pour ces désirs nouveaux, et je regrette les chagrins passés. Illusion, illusion, où est votre charme? Où est votre rime constante, la jeunesse? Quoi? Vraiment? Sa couronne de fleurs serait-elle flétrie? Quoi? En toute vérité, sans fadeurs élégiaques, le printemps de ma vie se serait-il évanoui? Ce que je n'ai dit jusqu'alors qu'en plaisantant, Quoi ? Il aurait fui sans retour ? Est-il possible que j'aie bientôt 30 ans ? Oui, mon midi a sonné. Point de subterfuge, il faut en convenir. Eh bien, soit. Séparons-nous en bons amis, ô ma jeunesse légère. Je te remercie pour tes plaisirs, pour tes tristesses, pour tes tourments qui me sont devenus chers. Pour ton bruit, tes orages, tes fêtes, pour tous tes dons, je te remercie. De toi, dans les agitations et le recueillement, j'ai joui, pleinement joui. C'est assez. Avec une âme rassérénée, j'entre à présent dans une nouvelle voie, après m'être reposé de ma vie passée. Jetons un dernier regard en arrière. Adieu, humble toit où mes jours se sont écoulés dans l'obscurité, rempli de passion, de paresse et des rêves d'une âme en tourmentation. Et toi, enthousiasme, reste jeune, secoue mon imagination, vivifie mon cœur sommeillant. Accours plus souvent sur tes ailes dans mon réduit et ne permets pas à l'âme du poète de se glacer, de s'aigrir, de s'endurcir comme un roc dans les séductions délétères du monde, au milieu d'orgueilleux sans cœur, de sots majestueux, au milieu d'enfants gâtés, aussi rusés que lâches, de scélérats ridicules et ennuyeux, de juges ineptes et tranchants, au milieu de coquettes dévotes, de serfs volontaires, de scènes journalières et triviales, de trahisons polies et caressantes, au milieu de condamnations froidement prononcées par la vanité cruelle, du vide insupportable des pensées, des entretiens et même des calculs dans ce vil marais où je suis plongé jusqu'au cou avec vous, mes chers amis. » Et Onéguin s'approcha de la fenêtre et lut tout bas. C'était un gentil petit cartel, très court et très élégamment tourné. Avec une politesse exquise et froide, Lenski faisait à son ami la proposition de se couper la gorge l'un l'autre. Emporté par son premier mouvement, Onéguin se retourna vers le porteur du message et lui dit, oh, sans parole superflue, qu'il était toujours prêt. Zaretski se leva, sans autre explication, et prétextant qu'il avait beaucoup à faire chez lui, il sortit sur le champ. Resté en tête-à-tête avec son âme, Onéguin se sentit très mécontent de lui-même. En effet, s'étant appelé au tribunal de sa conscience, où il s'interrogea sévèrement, il dut s'avouer coupable. D'abord, il avait eu le tort de plaisanter dédaigneusement la veille d'un amour aussi timide que tendre. Et puis, que le poète fasse un coup de tête, c'est pardonnable à 20 ans. Mais Onéguin, qui après tout aimait l'adolescent de tout son cœur, n'aurait pas dû se montrer un ballon aux mains du préjugé, un écervelé, un spadassin. Il aurait dû agir en homme de sens et d'honneur. Il n'aurait pas dû craindre de montrer ses vrais sentiments au lieu de se hérisser aussitôt comme une bête fauve. Son devoir lui prescrivait de désarmer ce jeune cœur. « Mais il est trop tard, se dit-il, le moment a passé. Et puis dans cette affaire, s'est entremêlé un vieux duelliste, méchant et bavard. Certes, le mépris devrait être la récompense de ces plates plaisanteries, mais le murmure malicieux et les rires étouffés des sots. Voilà ce qu'on nomme l'opinion publique, voilà ce qu'est l'honneur, notre idole, voilà sur quel axe tourne notre globe. » Tout bouillant d'une impatiente inimitié, le poète attendait chez lui la réponse. Et voici que son voisin, le haut-parleur, lui apporte solennellement les paroles d'Onéguin. Quelle fête pour le jeune jaloux! Il avait craint jusque-là que son adversaire ne s'abritât derrière quelque invention plaisante et ne dérobât ainsi sa poitrine à la balle de son pistolet. Maintenant, plus de doute. Dès le lendemain, au point du jour, ils doivent se rencontrer près du moulin, et chacun aura le loisir de viser son ami à la cuisse ou à la tempe. Décidé à haïr la coquette, Lenski, dans son indignation, ne voulait plus revoir Olga avant le duel. Mais il regarda le soleil, puis sa montre, changea d'avis et le voilà chez les voisines. Il s'attendait à troubler Olga par son arrivée, à l'effrayer même. Point du tout. Comme auparavant, Olga sauta sur le perron à la rencontre du pauvre poète, gaie, vive, insouciante, semblable à la déesse étourdie de l'espérance, en un mot comme elle avait toujours été. Pourquoi avez-vous disparu hier de si bonne heure? Telle fut sa première question. Tous les sentiments de Lenski furent bouleversés sans dessus-dessous. Il baissa la tête en silence. Toute jalousie, tout dépit disparurent soudain devant cette limpidité de regard, cette tendre simplicité, cette vivacité d'enfant. Il la regarde avec un doux attendrissement. Il voit qu'il est encore aimé. Et déjà, bourrelé par le remords, il voudrait lui demander pardon. Mais il tremble sans trouver de parole. Il est heureux, il est presque bien portant. Redevenu triste et rêveur devant sa chère Olga, Vladimir n'a pas la force de lui rappeler la soirée de la veille. Il se dit « Bon, je serai son sauveur. Je ne souffrirai pas qu'un séducteur trouble cette jeune âme par le feu de ses soupirs et de ses flatteries, qu'un vil ver empoisonné ronge la tige de ce lys, que cette fleur qui n'a vu que deux matins se flétrisse à demi épanouie. » Tout cela signifiait « Messieurs, je me bats avec mon ami. » Ah, si Lenski pouvait savoir quelle blessure brûlait le cœur de Tatiana. Si elle-même pouvait prévoir, pouvait se douter que dès demain, Lenski et Onegin allaient se disputer à qui descendra dans la nuit du tombeau. Son amour aurait peut-être réconcilié les deux amis. Mais personne, même par hasard, ne soupçonnait ce qui se passait en elle. Onegin gardait le silence. Tatiana dépérissait en secret. La nourrice seule aurait pu savoir quelque chose. Mais, depuis longtemps, elle ne savait plus rien deviner. Toute la soirée, Lenski fut distrait, tantôt silencieux, tantôt bruyant de gaieté. Mais celui qui a nourri la rue, muse, est toujours ainsi. Fronçant le sourcil, il s'asseyait brusquement devant un piano pour n'en tirer que des accords, ou bien, fixant ses regards sur Olga, il murmurait « N'est-ce pas, je suis heureux. » Mais il se fit tard. L'heure vint de partir. Son cœur se resserra soudain, plein d'angoisse, et sembla éclater quand il prit congé de la jeune fille. Elle le regarde droit aux yeux. « Mais qu'avez-vous ? » ?»« Rien. » Et il descend le perron. De retour à la maison, il examine ses pistolets, les replace dans leur boîte et, déshabillé, se met à lire Schiller à la lueur d'une bougie. Mais une seule pensée l'obsède. Son triste cœur ne peut sommeiller. Il voit toujours Olga devant lui, rayonnante d'une beauté ineffable. Vladimir ferme le livre et prend la plume. Ses vers, pleins d'un désordre amoureux, coulent et sonnent. Il les lit à haute voix dans un transport lyrique, comme Delvig ivre un festin. Le hasard a conservé ces vers. Je les ai, les voici. Où êtes-vous? Comment avez-vous disparu, jour doré de ma jeunesse? Le jour qui vient, que me prépare-t-il? Mon regard tâche en vain de le saisir dans les ténèbres profondes où il se cache encore. Qu'importe, la loi de la destinée est toujours juste. Que je tombe percé par la flèche mortelle, ou qu'elle passe sans m'atteindre, tout est bien. L'heure fixée pour la veille et pour le sommeil vient à son temps. Bénie soit la lumière qui éclaire nos soucis et nos travaux, et bénie encore l'ombre calme de la nuit. Demain poindra le rayon de l'aurore, et le jour serein se jouera dans les cieux. Et moi, peut-être, je serai déjà descendu sous la voûte mystérieuse du sépulcre, et le léthé aux landes ondes dévorera jusqu'au souvenir du jeune poète. Le monde m'oubliera, mais toi, ô ma jeune et belle fiancée, viendras-tu répandre une larme sur mon urne prématurée? Te diras-tu, il m'a aimé, il a consacré à moi seul la triste aurore d'une vie orageuse et courte? Ô mon ami, ô mon espérance, viens, viens, je suis ton époux. C'est ainsi qu'il écrivait d'un style obscur et languissant, ce style qu'on nous fait passer pour romantique, bien qu'à vrai dire je ne sache pas pourquoi. Enfin, vers le point du jour, Lenski, courbant sa tête fatiguée, s'endormit d'un léger somme sur le mot à la mode « idéal ». Mais à peine avait-il le temps de se plonger dans l'oubli du rêve que son voisin pénètre dans le cabinet silencieux et réveille Lenski en s'écriant « Allô, il est temps, 6 heures sont sonnées et sans nul doute Onegin nous attend. » Mais il se trompait. Onegin dormait encore à ce moment d'un sommeil de plomb. Déjà les ombres de la nuit s'éclaircissent et Vesper est saluée par le chant du coq. Onegin dort profondément.